Et 7h.
Léa Salamé, Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et soyez les bienvenus dans le 7-9. Nous sommes le mardi 22 juin. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la fête plus que la musique pour les 40 ans de ce rendez-vous festif célébrant l'été. Pas de couvre-feu hier soir, mais des mesures sanitaires qui ont réduit les possibilités de concert. La joie de se retrouver était tout de même palpable. Reportage dès le début de ce journal, Agnès, après les autres titres.
30 ans après, l'ADN va-t-il enfin parler dans l'affaire Omar Radad. Les électeurs de gauche très partagés en PACA après le retrait de leur liste. Êtes-vous prêts à donner vos organes? Il faut prendre le temps d'y réfléchir aujourd'hui. Et puis les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro avant même de jouer demain contre le Portugal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire.
Et les invités d'Inter ce matin à 7h50, Léa.
Gagarine, un très beau premier film, enthousiasmant, onirique, brillamment mis en scène. Un premier film comme on en voit rarement. Si je devais résumer, ce serait 2021, l'Odyssée de l'espace en banlieue parisienne. On reçoit les deux réalisateurs de ce film sélectionné au dernier Festival de Cannes. Fanny Yattar et Jérémy Trouille seront nos invités à 7h50.
Et on se retrouve, Léa, pour le grand entretien à 8h20 consacré aujourd'hui au régional en Ile-de-France. Deux invités, 8h20 donc, le secrétaire national d'Europe Écologie, les Verts, tête de liste de l'Union de la Gauche, Julien Bayou, puis à 8h30, la présidente sortante de la région Ile-de-France, candidate à sa réélection, Valérie Pécresse.
France Inter. Une fête pour retrouver le goût des autres. Les amateurs de musique seront sans doute restés un peu sur leur faim avec des mini-concerts assis dans les bars, mais pas de spectacle dans les rues. Plusieurs villes comme Nantes, Strasbourg ou Tours avaient même annulé leurs festivités. Reste qu'après des mois de restrictions, cette 40e fête de la musique était surtout l'occasion de voir du monde. Boris Loumagne s'est promené hier soir dans les rues de Paris.
Cette fête de la musique, c'était beaucoup de fêtes, mais pas beaucoup de musique. Face à un protocole sanitaire strict, la plupart des patrons de bar ont renoncé à organiser un concert dans leur établissement, à l'image de Thierry qui devait faire venir un groupe brésilien, mais...
Les Brésiliens, vous connaissez, c'est festif. On ne peut pas amener les Brésiliens et puis demander à tout le monde de rester assis, de se séparer d'un mètre, et puis d'écouter et puis d'applaudir. C'est juste impossible.
Les rues de Paris qui ont donc sonné creux une partie de la soirée avant de se réveiller doucement vers 22h. Quelques DJ devant les bars, mais des clients un peu sur la retenue, comme l'ont constaté Simone et Joseph.
Bon, tout le monde voulait en fait se lâcher, mais personne n'a réellement...
C'est re-sociabiliser, voir du monde, être un peu collé, serré, ça fait bizarre. Ça prend un peu de temps quand même. C'est un peu gênant d'être un peu trop collé.
Alors certains ont tout de même fini par se lâcher, comme ce groupe de fonctionnaires européens, karaoké improvisé dans la rue. Et puis, vers minuit, quelques débordements à signaler, plusieurs centaines de jeunes réunis sur les quais de Seine. Plus de gestes barrières du tout.
C'est limite, mais bon, on commande la vaccination avance, je crois qu'on est tous à la première dose, donc on fait un petit écart.
Les forces de l'ordre ont dû intervenir à plusieurs reprises.
Un reportage de Boris Loumagne, intervention musclée des forces de l'ordre à Annecy, en bordure du lac, avec des affrontements violents entre fêtards et policiers, nous y venons dans le journal de 8h. Une fête de la musique écourtée aussi par des orages, les rues du centre-ville de Reims transformées en torrent pour la troisième fois en deux semaines, et une personne portée disparue à Beauvais, dans l'Oise.
Il est 7h04, c'est l'une des phrases les plus célèbres, Agnès, de l'histoire judiciaire française.
Omar m'a tué, message écrit sur la porte d'une villa de Mougins par Guylaine Marchal, retraitée aisée de 65 ans, retrouvée poignardée dans la cave de sa propriété. Condamné à 18 ans de prison, son jardinier, Omar Radad, bénéficiera d'une grâce de Jacques Chirac sans être innocenté. Dans un document consulté par France Info, son avocate annonce le dépôt d'une nouvelle requête dans la cour de cassation. En raison, Margot Steve, de nouvelles expertises ADN.
Au cœur de cette nouvelle requête, une expertise rendue en 2019 et dévoilée hier par le journal Le Monde. Un rapport qui dévoile la présence sur les lettres de sang tracées sur les lieux du crime d'un ADN masculin inconnu. Selon l'expertise, cet ADN apparaît pas moins de 30 fois sur les inscriptions et pourrait être celui du meurtrier. Il ne correspond pourtant pas au profil génétique de celui qui était jusqu'ici le principal suspect. De quoi blanchir définitivement le jardinier de la victime, espère la défense d'Omar Édouard Radad. Après avoir été gracié par le président Jacques Chirac en 1998, Omar Radad avait pu être libéré après 7 ans d'emprisonnement. La justice ne l'a pourtant jamais formellement innocenté dans cette affaire.
Justice encore, l'homme qui a giflé Emmanuel Macron il y a 15 jours dans la Drôme et condamné à 4 mois de prison ferme va faire appel des peines complémentaires prononcées lors de sa comparution immédiate, notamment l'interdiction définitive d'exercer dans la fonction publique, l'interdiction définitive du port d'armes pendant 5 ans et la privation de ses droits civiques, civils et familiaux durant 3 ans. La politique, avec les dernières heures de négociation avant le dépôt des listes pour le second tour des régionales, au plus tard ce soir à 18h. Accord conclu en Ile-de-France entre l'écologiste Julien Bayou, la socialiste Audrey Pulvar et l'insoumise Clémentine Autain. Front républicain finalement mis en place en Provence-Alpes-Côte d'Azur, arrivé en 3e position derrière le RN Thierry Mariani et le candidat Les Républicains Renaud Muselier. Jean-Laurent Felidia a finalement accepté de retirer sa candidature pour appeler à voter pour la droite, mais ses électeurs semblent partagés, comme a pu le constater Julie-Marie Lecomte à Marseille. Reportage.
Autour de la Canebière, un électeur sur deux a voté à gauche au premier tour. Alors forcément, ce retrait laisse un peu amer.
Je sais pas ce que je vais voter dimanche en tout cas. On vote toujours par défaut, quoi, et on en a marre.
Ça commence à devenir une habitude. Encore une fois, on est obligé de se résigner.
Jean-Laurent Felidia qualifie son choix de déchirant, mais cette quinquagénaire l'approuve.
Oui, c'est peut-être violent. Par contre, là, on est sur de la stratégie pure. Une personne qui a voté à gauche et qui va se retrouver avec un président de région du Rassemblement National, c'est juste impensable.
Le retrait, seule option raisonnable pour son amie. Elle se dit même que l'épisode a peut-être créé une tension susceptible de provoquer un sursaut.
Peut-être c'est une stratégie pour piquer les gens et voilà. Tout le monde va courir dimanche prochain pour aller voter.
Ces deux femmes voteront donc Muselier sans hésiter, comme Jonathan qui n'avait pas besoin de consignes pour décider.
Non mais en vrai on s'en fout qu'ils restent ou qu'ils restent pas, qu'ils se maintiennent ou qu'ils se maintiennent pas. Les gens sont intelligents et s'ils ont envie de faire un barrage, ils le feront. S'ils ont envie de voter droite, ils le feront tout simplement.
Jean-Laurent Felidia explique avoir hiérarchisé les priorités, la reconstruction d'une gauche forte devra attendre. Point commun entre ses électeurs, il trouve que là aussi, il y a urgence.
Et quels candidats sont en lice pour le second tour dans votre région? C'est à découvrir sur franceinter.fr. Et puis comment remobiliser les électeurs après l'abstention record de dimanche dernier? Des associations étudiantes tentent de sensibiliser les jeunes et font des propositions. C'est à découvrir dans le journal de 7h30. Enseigner les valeurs de la République aux jeunes, c'est justement l'objectif du service national universel expérimenté en 2019, suspendu en 2020 à cause du Covid. Cette année, 18 000 volontaires âgés de 15 à 17 ans s'apprêtent à passer 2 semaines dans l'un des 122 centres répartis dans l'Hexagone. Claire Chaudière.
Percuté de plein fouet par la crise, le SNU n'atteindra pas cette année la jauge de 30 000 jeunes initialement prévue pour l'année dernière, mais les fondamentaux restent les mêmes, martèle le gouvernement. Dépaysement, mixité sociale et une tenue commune pour tous les participants, pour ne pas dire un uniforme. Angélique a fait partie de la première promotion.
Ça a été vraiment une des plus belles expériences de ma vie. J'ai rencontré plein de personnes, des corps en uniforme, tout ça. Les activités qui m'ont le plus plu en quelque sorte, c'est les activités de battue où on cherchait des personnes disparues. La self-défense aussi, ça j'ai adoré.
Lever du drapeau chaque matin et marseillaise, rituel reconduit également. Au programme, plus de plein air qu'en 2019 où les modules théoriques avaient eu moins de succès.
C'est surtout que c'était long avec la chaleur. On n'est pas allé au SNU pour rester dans des salles de cours comme au lycée.
Quant à la généralisation du dispositif, elle n'interviendrait que d'ici 3 à 4 ans, avance très prudemment l'exécutif. Angélique sait que le sujet continue de diviser.
Moi, j'estime que le rendre obligatoire, c'est bien. Après, je sais qu'il y en a plein qui ne sont pas de mon avis. Il y a plein de gens qui sont réticents.
Parmi les critiques, encore vive la coloration jugée parfois un peu trop militaire du dispositif. Autre point sensible, le coût et les capacités d'hébergement à terme de ces centaines de milliers de jeunes.
Le coût de cette édition, justement, 63 millions d'euros. Et dans cette promo, 55% de filles et 5% de jeunes issus de quartiers prioritaires.
Il est 7h09, l'avenir, Agnès, des enfants français de Daesh.
Avec cet appel lancé par 120 personnalités réclamant le rapatriement en France de ces enfants amenés par leurs parents en Syrie ou nés sur place, la Fédération internationale des droits de l'homme estime que l'opinion publique est en train de changer. Mais la question reste très politique, Bertrand Galichet.
Les 200 enfants retenus en zone kurde ne sont pas des lionceaux du califat, mais des gamins abandonnés par leur pays, insistent les personnalités qui militent pour leur retour en France. Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH.
Il est beaucoup plus dangereux de laisser ces enfants dans les camps que de les rapatrier. En définitive, on se retrouve avec de futurs terroristes en herbe, alors qu'ils ne sont responsables de rien, et pas en tout cas des choix de leurs parents.
Vous voulez aussi que les mères de ces enfants, une centaine sans doute, puissent rentrer en France avec eux, ce qui est plus difficile à faire accepter.
C'est sûr que si on limite aux enfants, ça passe mieux d'un point de vue pédagogique. Pourquoi alors avons-nous demandé le rapatriement des enfants et de leurs mères? C'est parce que l'intérêt de l'enfance justifie que l'on demande aussi le rapatriement des mères. Et ce sont des femmes qui ne seront jamais jugées si elles restent dans les camps du nord-est syrien. Et finalement, c'est leur assurer une sorte d'impunité.
Pour la France, c'est un tabou politique, dit-on à la FIDH. L'Allemagne, la Finlande, la Belgique, le Danemark et la Suède acceptent désormais de rapatrier leurs enfants de Daesh.
C'est une journée nationale pour réfléchir aux dons d'organes. Crise du Covid oblige, les greffes ont diminué l'an dernier de 25%. Un peu plus de 4400 ont tout de même pu être réalisés. Une renaissance pour les malades, un combat quotidien pour les médecins. Cécilia Arbonin.
De cette année particulière, plombée par la pandémie, le docteur Benoît Averlan, directeur adjoint du prélèvement et de la greffe à l'agence de biomédecine, veut se souvenir des prouesses des soignants et des moments de magie.
Alors, on a continué les greffes thoraciques, donc le cœur, un peu moins le poumon. On a continué la greffe hépatique, on a continué à greffer des enfants, greffer des gens dans un état grave.
Mais le Covid a généré des peurs. Le taux de refus du don d'organes a augmenté de 24%.
Peut-être que la période sociétalement difficile a rendu les gens beaucoup plus frileux dans leurs témoignages. Et...
consentir à donner un organe après sa mort permet pourtant de réparer des vivants.
En fait, j'étais sur les attentes depuis un an et demi.
Cette mère de deux enfants, avocate à Aix-en-Provence, a reçu un nouveau rein, Chloé Hébert.
On m'a appelé le samedi 18 janvier à 6h du matin. Sur le coup, c'est quand même beaucoup d'émotions. Pour le coup, moi, ce qui m'a aidée, c'est le Covid. Tout de suite, donc isolée quand même après la greffe. Donc, on voit plus sa famille pendant presque 15 jours. C'est vrai que quand je suis sortie de l'hôpital, tout le monde avait des masques. Mais pour moi, c'était même pas un choc, on va dire, parce que depuis 15 jours, je voyais que des gens avec des masques et des blouses. Oui, c'est quand même une renaissance, c'est certain. Je vis, mais finalement, ouais, 100 fois mieux que les quelques années qui ont précédé.
Grâce à son nouveau rein, Chloé Hébert a oublié la fatigue chronique qui lui gâchait la vie.
Et côté vaccination, un chiffre à retenir ce matin, plus de 32 millions de Français ont reçu au moins une première dose de vaccin. Enfin, sans même avoir disputé leur troisième rencontre de phase de poule, les Bleus sont qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, tout comme la Suisse, la Suède, la République tchèque et l'Angleterre, après les résultats d'hier. Mais pas question pour les Bleus de lever le pied demain soir face au Portugal, le champion d'Europe en titre. Nadia Ben-Mokhtar, la consultante football de Radio France, nous explique pourquoi.
C'est une bonne nouvelle, mais qui n'enlève rien à l'enjeu du match de mercredi face au Portugal. Car en cas de victoire face au Portugal, l'équipe de France finirait première du groupe et ça permettrait aux Bleus de vraiment se faciliter la suite du parcours en affrontant un adversaire beaucoup plus modeste en huitième de finale. Alors qu'une défaite, qui serait synonyme de deuxième ou troisième place, les obligerait à rencontrer un adversaire très fort, comme l'Angleterre par exemple, dès les huitièmes. Donc le match face au Portugal garde tout son enjeu. Le mot d'ordre pour Didier Deschamps sera forcément la victoire face au Portugal qui, rappelons-le, est champion d'Europe en titre.
Explication recueillie par Guillaume Batin. Et avant Portugal-France, donc demain soir, à suivre ce soir à 21h, Croatie-Écosse et Tchéquie-Angleterre.
Merci Agnès Soubiran. Dans 3 minutes, c'est le Zoom aujourd'hui sur le mystère de l'or des Troadecs.